Alors, je me permettrai, en abordant ce sujet sur l'archevêque de Lyon et son chapitre cathédrale au Moyen-Âge, de rappeler en manière d'introduction un petit peu quelques notions qui me semblent nécessaires parce que c'est à la fois un peu comme maintenant et puis en même temps c'est aussi assez différent. Donc il faut déjà que je rappelle ce que sont les deux protagonistes, si je puis dire, c'est-à-dire l'archevêque et d'un côté et le chapitre cathédral de l'autre. Sur un plan général, l'évêque ou l'archevêque, le surveillant, l'épiscopos, comme on sait en grec, le surveillant de la communauté antique, a vu se préciser, tout le monde le sait, petit à petit, ses pouvoirs d'enseignement, d'ordre et de juridiction au plan spirituel de son diocèse. Au plan temporel, ça on le sait moins généralement, il a été amené, l'évêque, à exercer le pouvoir de défenseur de la cité, titre donné au 5e siècle à ceux qui exerçaient des fonctions administratives que seul à ce moment-là d'ailleurs un évêque était généralement capable d'assurer. Puis, j'enjambe un peu les siècles, on sait que l'évêque a reçu le privilège d'immunité à l'époque carolingienne, c'est-à-dire le privilège de ne dépendre que du souverain sur le plan temporel, sans avoir à rendre de compte aux représentants de l'autorité civile, qui était le comte, et ça a renforcé naturellement ses pouvoirs temporels. Et puis, chacun a entendu parler, naturellement, à l'époque carolingienne, des missi dominici, et l'évêque était obligatoirement l'un des deux envoyés du prince. Donc tout ça a contribuer à donner un rôle temporel. Et puis, bien entendu, depuis l'époque carolingienne, les choses s'affirment au-dessus de l'évêque, le métropolitain devient l'archevêque à la tête d'une province. Le mot province n'est utilisé que dans ce sens-là au Moyen-Âge, et avec la possibilité pour l'archevêque de réunir, il ne s'en est pas fait faute, ou des conciles provinciaux. Voilà pour rappeler les choses sur un plan très général pour l'instant. De l'autre côté, puisque vous verrez que je suis obligé de raisonner ainsi, puisqu'il va y avoir deux éléments qui à certains moments vont s'affronter, le chapitre de la cathédrale s'est organisé sur un plan général aussi nettement au début du IXe siècle, et il a été amené graduellement à respecter la vie régulière au cloître, ce dont on est guère sûr avant le XIe siècle d'ailleurs. Et il apparaît normalement comme le collaborateur de l'évêque, et ainsi il prend une place croissante dans le diocèse. Mais justement, comme sa place, ce chapitre cathédral, ça croît un peu partout, il en résulte une évolution du recrutement qui se fait de plus en plus régionale, de plus en plus nobiliaire, de plus en plus aussi sur des critères juridiques, ce qui devient alors flagrant carrément au XIIIe siècle. D'où des chanoines qui font en quelque sorte de véritables carrières sur plusieurs décennies, sauf s'ils sont appelés évidemment à d'autres fonctions ou s'ils décèdent prématurément. On a donc affaire à des chanoines dont les caractéristiques sont, on le voit, totalement différentes des chanoines actuels. Sur ce plan-là. Par ailleurs, ce chapitre, naturellement, a beaucoup d'activités, les offices liturgiques, vous vous en seriez douté, l'action spirituelle dans le diocèse, l'action matérielle aussi qui n'est pas mince, dont l'organisation de l'aumône et de tout ce qui est action hospitalière aussi, et puis ça s'étend assez facilement aux constructions et restaurations de chapelles et à bien d'autres initiatives. Bien entendu, chez les chanoines, les comportements sont très variables. Vous trouvez de tout, des saints, incontestablement, des politiques, des routiniers, il y a évidemment tous les styles. Cela dit, on constate quand même qu'ils ont tous le souci de constituer une bibliothèque du chapitre qui devient après une bibliothèque propre à chaque chanoine dans les siècles ultérieurs, bien souvent. Et cette bibliothèque, naturellement, comporte psautiers et bibles, vie des saints, et des ouvrages en général de théologie, de droit, d'histoire et de médecine. Voilà donc ce qu'est la situation générale. Et, ma foi, les choses s'organisent ainsi, de telle sorte qu'il y ait aussi, bien entendu, toute cette implantation caractéristique que l'on trouve dans la cathédrale, qui veut que les livres liturgiques soient à gauche, en général, par rapport à ceux qui rentrent dans la cathédrale, dans une armoire encastrée dans le mur ou dans un coffre, et les objets de culte soient à droite, en général, près de la piscine liturgique. Là, j'en suis aux généralités. Bien. Qu'est-ce qui se passe à Lyon ? D'abord, vous le savez, mais enfin, il faut quand même le redire, il faut repartir des originalités lyonnaises, parce qu'il y a des originalités lyonnaises qu'il faut maintenant marquer. D'abord, ici, on est au siège d'une primatiale. Lyon n'est pas seulement le centre d'un diocèse qui est vaste, qui s'est fixé au 5e siècle. Un diocèse qui comprend le Lyonnais, le Lyonnais proprement dit, pas le Beaujolais. Le Forêt, la Dombes, la Bresse, le Revermont, le Haut-Bugey, c'est très grand, ça représente un millier de paroisses. Mais Lyon n'est pas seulement le centre de diocèse, il est aussi naturellement la capitale d'une province ecclésiastique, avec des suffragants, évêques suffragants qui se trouvent à Langres, à Autun, à Châlons, à Mâcon et à Lyon. Ce qui fait d'ailleurs que, du même coup, on a affaire à une province qui est à cheval, en somme, entre le royaume et le Saint-Empire romain. Ce qui va d'ailleurs donner une certaine marge de manœuvre à l'archevêque de Lyon. Et puis, surtout, Lyon est la plus ancienne église organisée de Gaule depuis le second siècle. D'autres sièges, on le sait, ont tenté de contester la primatie lyonnaise, Arles, Vienne et les autres, mais c'est un fait historique qui est avéré et la papauté a fini par le reconnaître. Elle ne s'est pas pressée, elle voulait sans doute promouvoir ses vicaires apostoliques et par la suite ses légats, et le développement, la reconnaissance des primats aurait sans doute fait de l'ombre. Vraisemblablement, tant et si bien que la papauté a traîné pour ce qui concerne Lyon jusqu'en 1079 pour reconnaître enfin officiellement cette primatie, et encore avec des limitations précises aux provinces de Rouen, Tours, Sens et Lyon. Et ce qui permettait, en agissant ainsi, de ne pas avoir l'air de trop contrecarrer à la fois et l'empereur et le roi de France. Donc, siège d'une primatiale, c'est déjà une originalité par rapport au reste de la France. Il y a une deuxième originalité qu'il est bon d'affirmer, parce que très souvent, malheureusement, les Lyonnais l'ignorent ou n'en voient pas l'importance, c'est que Lyon a été, au Moyen-Âge, la capitale en second de la chrétienté au XIIIe siècle. C'est pas une surprise. Et ça, la primatie, évidemment, n'y aurait pas suffi. Il faut représenter cela en schématisant beaucoup comme une position importante sur une voie de passage d'un flux croissant de pèlerins. Il y en a eu depuis que le christianisme a été libre de son action, mais il est bien évident que le flot de pèlerinage s'est mis à croître depuis le XIe siècle, au moment où petit à petit, la sécurité revient suffisamment pour assurer les déplacements, car contrairement aux idées émises dans certaines familles de pensée, les châteaux ont fini par apporter la sécurité, et non pas la sécurité comme on l'a représentée par une idéologie que vous devinez. Quoi qu'il en soit, donc, vous avez affaire à une voie de passage qui amène les pèlerins qui viennent des pays septentrionaux vers Rome, Jérusalem. C'est la voie, évidemment, la circulation majeure. Maintenant, il y en a aussi une autre. Ce sont des pèlerins qui viennent des pays du Saint-Empire et qui passent par Lyon pour aller au Puy. Et vous devinez qu'ensuite, c'est la route de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, votre passage très important des flots croissants de pèlerins. Et je ne vais pas détailler cela, ça nous entraînerait un petit peu loin de suivre ce phénomène qui va croissant au 11e, 12e, 13e siècle. Et puis, le fait important, le fait capital, c'est que Lyon est le lieu d'installation du pape dans une partie du 13e siècle, c'est-à-dire non pas du transit temporaire, mais une installation du pape avec la curie. C'est la chose se produit pour la première fois sous le pontificat d'Innocent IV, qui, c'est bien connu, étant en conflit aigu avec l'empereur Frédéric II, a cherché un lieu où il pourrait tenir un concile qui lui permettrait, entre autres choses, d'obtenir la condamnation de l'empereur. Rome, c'était invivable généralement au Moyen-Âge. Ouais, vous racontez un peu ce qui s'y passait, c'était pas tenable et le pape, la plupart du temps, était obligé d'aller dans un autre endroit d'Italie généralement. Alors là, les choses avaient pris une telle tournure au milieu du XIIIe siècle que même l'Italie, dans son ensemble, ça devenait de plus en plus intenable. Donc, qu'a fait le pape? C'est bien célèbre. Il était génois d'origine, Innocent IV. Il a amusé l'empereur pour endormir la méfiance impériale et celle de ses partisans. Et puis, le cinéma pourrait s'en emparer. Une belle nuit, déguisé en arbalétrier, il a, c'est assez original pour un pape, vous l'avouerez, il a gagné le port de Civita Vecchia parce qu'il y avait belle lurette que Ostie était ensablée. Il a trouvé, comme par hasard, un bateau de compatriotes génois, affilé à Gênes. Et là, le temps d'une négociation un peu délicate avec la maison de Savoie qui était Ghibelline, c'est-à-dire pro-impériale. Et voilà Innocent IV qui gagne Lyon. Et qui gagne Lyon dans un endroit très satisfaisant. On ne pouvait pas lui reprocher d'abandonner le Saint-Empire. C'était toujours une terre d'empire. Oui, mais on était aux limites du royaume. Et dans le cas où les choses tourneraient mal, il n'était pas très difficile de passer sous la protection de Saint-Louis, qui n'aurait certainement pas admis que l'on s'en prît à la personne du pape. Voilà comment Innocent IV arrive en 1244 à Lyon et la curie suit. Le reste, la suite est connue, c'est le premier concile de Lyon de 1245, dont tout le monde a entendu parler, je suppose. Et puis, mais le pape reste après le concile. Ah, il ne part pas. Il ne repart pas. Il repart pas. Il va attendre, et encore, en y mettant des délais, la mort de Frédéric II, qui survient en 1250, pour commencer à envisager l'éventualité d'un retour, qui finit par se produire en 1251. Il est mort, d'ailleurs, peu de temps après son retour. Mais pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années-là, la curie avait été à Lyon et il y avait eu toute une organisation. La fondation de l'université pontificale s'est faite à Lyon, entre autres choses. Ça a été donc très marquant. Et puis, un petit peu plus tard, la question s'est reposée à nouveau, dans des termes sensiblement analogues. Oh, il y a quand même une différence, mais enfin, pour Grégoire X. Et là encore, il s'agissait de préparer ce qui allait être le second concile de Lyon et d'élaborer toutes les conséquences. Et là, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire que, en pareil cas, la plupart des membres de la curie, sinon le pape lui-même, s'installaient ordinairement dans le très puissant cloître fortifié de Saint-Just, où il y avait des possibilités suffisantes d'installation et qui étaient sans doute pour se faire le lieu de loin le plus approprié, et moyennant quoi, il pouvait s'organiser bien aussi facilement qu'à Rome. Autrement dit, si on peut parler de capitale en second de la chrétienté, c'est à cause de ces séjours prolongés, c'est à cause des liens que l'on pourrait développer plus longuement, qui se sont opérés par la suite, puisqu'il y a eu dans la suite des papes, selon le cas, couronnés à Lyon, élus en conclave à Lyon, ça a duré comme ça jusqu'au début du XIVe siècle. Par conséquent, on peut affirmer que Lyon préfigure en somme ce que va être Avignon au XIVe siècle. C'est une chose qui mérite d'être soulignée parce que c'est généralement très peu connu. Bien entendu, si les papes ont pensé à Lyon, ce n'était pas non plus le hasard absolu. Parce que, il est bien certain que je ne veux pas remonter plus loin, mais au moins depuis Urbain II, vous vous souvenez, le prédicateur de la première croisade à Clermont, eh bien donc depuis 1095, il était fréquent que les papes venant d'Italie et ayant à négocier en France passent par Lyon. Il y en a eu toute une, j'allais dire, toute une série de papes qui, depuis ce moment-là, sont passés par Lyon, et ça a duré jusqu'à Jean XXII, élu en 1316 au cloître des Jacobins. Voilà, par conséquent, quel est le rôle exceptionnel que joue Lyon, qui n'est pas, après tout, une surprise totale. Lyon, même dans un cadre qui n'était pas religieux, avait déjà joué un très grand rôle dans l'Empire romain, et c'était dans une autre visée, et aussi le prolongement de certaines traditions. Et par conséquent, il ne vous étonnera pas que si vous mettez le siège de la primatiale d'une part, et qui s'affirme donc au fil des siècles, et d'autre part, cette capitale en seconde de la chrétienté, que Lyon est représentée véritablement, comme sur le plan religieux, des enjeux absolument considérables. Au IXe siècle, on peut remonter jusque-là, hein, au IXe siècle, on voit à quel point les Carolingiens s'intéressent à Lyon, quand même. Pensez à l'évêque Léidrade, qui est celui qui a été chargé particulièrement de mettre en application le programme scolaire de Charlemagne. Un élément fondamental, si vous le voulez, de ce que l'on devait appeler la Renaissance carolingienne. C'est quand même pas mal, c'est pas de l'histoire locale, ça. De la même façon, son successeur, pour ne citer que les plus fortes personnalités, le fameux Agobard, a été l'inspirateur de la politique de l'empereur Louis le Pieux, le successeur de Charlemagne. Ce sont donc des choses de tout premier plan qui se passent à Lyon, à l'époque carolingienne. Mais ça continue après. Au Xe siècle, pour les rois de Bourgogne, puisque le Lyonnais était rattaché à ce moment-là au royaume de Bourgogne, eh bien, de la même façon, Lyon a représenté un enjeu important pour les rois de Bourgogne, derrière lesquels, d'ailleurs, très rapidement, s'est profilé l'empereur. Et au XIe siècle, à partir de 1032, bien, c'est officiellement même l'empereur qui s'intéresse très directement à Lyon, puisque le royaume de Bourgogne est devenu, après les royaumes de Germanie et d'Italie, le troisième royaume constitutif du Saint-Empire romain. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire par là, par le royaume de Bourgogne, c'est cet espace organisé autour de quelques principautés principales, telles que le comté de Bourgogne ou Franche-Comté, le comté de Genève, le comté de Savoie, le comté d'Albon à l'origine du Dauphiné, le comté de Provence, pour ne citer que les principaux sur le plan laïque, mais aussi des principautés ecclésiastiques, dont Lyon, je vais y revenir dans un instant. Et puis, à partir du XIe siècle, tout le monde a en tête la fameuse histoire de la querelle des investitures. Lyon devient un enjeu, cette fois-ci, XIe, XIIe siècle, entre l'empereur et le pape, purement et simplement. Et ça se traduit très directement, ça a des répercussions évidentes sur la constitution du chapitre cathédral, sur la désignation, sur l'élection du prélat. Et ça continue ensuite, au XIIIe siècle, là, les cartes changent un petit peu. L'enjeu, cette fois-ci, se situe entre le comte de Savoie, qui est vicaire impérial, qui représente donc directement l'empereur en royaume de Bourgogne, et le roi de France. C'est principalement de ces deux éléments-là que les choses se jouent. Et enfin, au XIVe siècle, c'est un enjeu, cette fois-ci, entre le roi de France, qui a pu écarter par une longue négociation diplomatique et un peu donnant-donnant, dans un règlement de contentieux général, le comte de Savoie en ce qui concerne Lyon. Donc le roi de France s'est affirmé à Lyon, mais cette fois-ci, c'est vis-à-vis du pape qu'un nouvel enjeu apparaît. Donc vous voyez à quel point Lyon pèse, si vous voulez, dans des événements de premier plan qui se passent en Occident. Voilà pour les originalités lyonnaises. Bien entendu, hein, et surtout, là, dans le cadre où nous sommes, si à certains moments il y a des demandes de précision, vous n'hésitez pas, hein, ça va de soi. Je passe ensuite à un deuxième point pour Lyon, c'est la lutte pour la direction de la principauté ecclésiastique du Lyonnais. parce que véritablement, ça va tourner à la lutte, et vous allez voir pourquoi, entre les deux éléments que je suis chargé de vous présenter. D'abord, la puissance de l'archevêque. Voyons les deux parties, on verra après comment elles entrent en conflit. Vous savez, depuis l'époque du premier archevêque de Lyon, qui était Agobard, que je vous situais dans les années 816-840, eh bien, le prélat, puissance spirituelle bien entendu, est aussi une puissance temporelle. Je vous renvoie à ce que je vous disais au début. Et ça c'est général, mais ce qui est particulier, c'est qu'il va pouvoir ajouter ici l'important titre de comte de Lyon. Et il faut savoir en effet que peu après l'entrée de Lyon dans le royaume de Bourgogne, là on est aux alentours de 940, le comte laïque n'a plus été désigné. On n'a plus de trace d'un comte laïque en Lyonnais depuis 944. Vous savez en effet qu'il était d'usage que le roi ou l'empereur, selon les périodes, carolingien, désigne un comte dans chaque secteur pour le représenter. Bon, ben là il n'y a plus de désignation, il y a une place à prendre, à l'évidence. L'archevêque a manifestement réussi à obtenir ce titre dans des conditions qui sont d'ailleurs mal élucidées. Est-ce que c'était un accord tacite, une concession formelle? On en est encore souvent aux suppositions. Ça peut être le cas de l'évêque Burchard Ier, dans les années 949-956, qui était le frère du roi Conrad de Bourgogne. Ça pouvait beaucoup aider, naturellement, aux concessions. Ou bien, on met des numéros, là c'est plus commode pour s'y retrouver, il n'y avait pas de numérotation à l'époque évidemment, ou bien c'est Burchard II, un autre archevêque de la période 979-1033, qui était le fils du roi Conrad, et qui, on sait, est très bien placé à la cour. De toute façon, c'est sous l'un des deux que ça s'est joué, et donc quelque part dans le Xe siècle. C'est bon, voilà. Lorsqu'on arrive dans la dernière décennie du Xe siècle, voilà un prétendu comte Artaud qui revendique, comme on dirait maintenant, le titre comtal. C'était probablement un vicomte de Lyon qui usurpait le titre, ça s'est vu ailleurs, ça ne sera ni la première ni la dernière fois, et qui a engagé une lutte un petit peu larvée avec le prélat. À la mort d'Artaud, en l'an 1000, tout simplement, sa veuve, qui ne perdait pas le fil de la politique, s'empresse d'aller épouser le comte de Forêt, un comte en bonnet du forme, celui-là. Et par conséquent, leur fils, le fils d'Artaud et de la veuve en question, peut s'intituler comte et prétendre au Lyonnais. Il n'était pas comte pour le Lyonnais, mais il avait d'une part le titre et d'autre part des prétentions sur le Lyonnais. Et évidemment, la descendance persiste et guerroie. L'archevêque, naturellement, essaye de réagir. Il finit par obtenir en 1076 l'excommunication par le pape du comte Artaud II, qui comprend le message et préfère, dans la suite, rester beaucoup plus prudent. Il se proclame uniquement comte de Forêt. Touche pas au Lyonnais. Reste quand même par la suite un fort contentieux territorial qui va être assez difficile à débroussailler. Mais quand même, les archevêques progressent et ils obtiennent notamment la bulle d'or impériale de 1157, qui existe toujours aux archives départementales du Rhône, et qui confirmait l'autorité de l'archevêque sur le Lyonnais. Après quoi, il ne restait plus qu'à trouver un terrain d'entente laborieux avec le comte du Forez, qui a été réglé en 1173. Et c'est à peu près sur ces bases que s'est opéré un découpage qui allait être pris dans les départements ultérieurs. Voilà donc, si vous voulez, cette puissance de l'archevêque. Mais il n'y a pas que ces aspects purement locaux. L'archevêque de Lyon, c'est une autre dimension. Donc s'est posée aussi la question, en même temps, dans la puissance de l'archevêque, de ses rapports avec le Saint-Empire. Dans Lyon, vous avez le Lyonnais, c'est parti. Au départ, l'archevêque était assez hostile. Hein, l'empereur, il devait craindre sans doute pour son pouvoir. Mais dans la suite, il s'est ravisé. L'archevêque de Lyon compte plutôt parmi les favorables à l'empereur, au moins depuis 1041, Et ça va durer sensiblement un siècle, jusqu'à Héracle de Montboissier, dans les années 1153-1163. C'est lui qui, justement, bien placé, a pu obtenir la bulle d'or de 1157, qui conféra à l'archevêque de Lyon les droits régaliens, la justice, la monnaie, les péages, etc., enfin, tous les droits importants d'un chef de principauté, pour la cité et pour tout ce qui était au moins à l'est de la Saône et du Rhône. Pour le reste, on était plus évasif. On était moins sûr que l'on ait pu respecter les limites telles qu'elles avaient été fixées au départ au traité de Verdun 843. La papauté, naturellement, a essayé de réagir devant cette obédience des archevêques de Lyon vis-à-vis de l'empereur. Et la papauté a réagi en imposant, mais vraiment en imposant, contre la décision du chapitre, qui était pourtant le corps électoral normal, Guichard de Pontigny, dans les années 1165-1180, puis l'anglais Jean Bellemin, qui est aussi favorable à la papauté, mais d'une façon quand même déjà moins affirmée. Après quoi, arrive cette espèce de Philippe-Auguste lyonnais, qui est l'archevêque Renaud de Forêt, notez-le, le seul qui a eu droit, et ça se comprend, à sa représentation sur les vitraux du chevet de la primatiale Saint-Jean, et c'est justifié. Renaud de Forêt, on est dans les années 1193-1226, réussit à être assez habile pour être assez indépendant dans cette cité d'Empire, il faut bien le reconnaître, dont une partie de la province se trouvait en partie en France. Et il le montre, cette indépendance, notamment par une politique de fortification qui a laissé des traces encore très visibles, encore actuellement en Lyon. Donc, puissance de l'archevêque, c'est incontestable d'une part. Mais si ça s'est connu, ce qui l'est beaucoup moins, c'est de l'autre côté la montée en puissance symétriquement du chapitre Saint-Jean. Le chapitre a été organisé pour ce qui concerne Lyon vers 810 par l'évêque Leidrade et placé sous le vocable de Saint-Étienne comme l'était la cathédrale primitive. C'est un chapitre organisé avec 52 chanoines en principe, c'est-à-dire que c'est évidemment et de loin le plus nombreux chapitre de la ville. Ce chapitre s'est vu reconnaître, il l'avait réclamé très vite, s'est vu reconnaître enfin en 910 le droit d'élire l'archevêque. Et il a eu, bien entendu, sa hiérarchie avec le doyen chef du chapitre, l'archidiacre, responsable du temporel de l'église de Lyon, le chantre naturellement pour la liturgie, le chamarier pour les finances et la police du cloître. Donc les chanoines avaient un certain nombre de responsabilités. Et ce chapitre organisé a multiplié très vite les initiatives. Figurez-vous que c'est en 1140, alors que vous pourriez l'attendre dans une période beaucoup plus récente, c'est en 1140 que le chapitre organise la fête de l'Immaculée Conception. C'est une chose qu'on ne sait guère, cela. Et il a poussé en général la dévotion à Marie, ce que vous pouvez en quelque sorte encore vérifier. Parce que du même coup, l'une de ses initiatives a consisté à organiser ce qui a été d'abord l'oratoire Notre-Dame, puis on y a ajouté la chapelle Saint-Thomas, Saint-Thomas de Quintembéré, la victime du meurtre dans la cathédrale, qu'on connaissait bien à Lyon depuis le temps que de Londres à Rome, il passait par Lyon, c'était une vieille connaissance. Et donc on lui a dédié une chapelle, et le tout réuni a fini dans l'organisation de la collégiale de Fourvières, officiellement érigée sous cette organisation en 192, mais toujours sous l'autorité du chapitre de Saint-Jean. Et le chapitre continue les initiatives. Vers 1170, il élève l'enceinte du cloître. Le cloître de Saint-Jean, j'y reviendrai, a été un cloître fortifiée, avec des murs plus de 6 mètres de haut, plus de 5 pieds de large, c'est-à-dire 1,65 m, des murs qui en sont restés visibles jusque dans l'entre-deux-guerres, le fameux éboulement de Fourvière qui a détruit les derniers restes de l'enceinte du cloître fortifié. Et comme ce chapitre devient de plus en plus puissant, en 1187, il réussit mieux encore, ou plus mal que ça selon, il obtient de l'archevêque l'autorisation pour les chanoines d'avoir chacun sa maison particulière à l'intérieur du cloître fortifié. Évidemment, c'est la fin de la vie en commun. En tout état de cause, ce chapitre va encore gagner en importance parce que vers 1200, il se met d'accord avec l'archevêque Renaud de Forêt pour cette organisation très originale, propre aux Lyonnais, l'organisation des obéances. Et en effet, pour la direction de la principauté ecclésiastique du Lyonnais, à la fois au spirituel et au temporel. L'archevêque s'est réservé un certain nombre de lieux, très peu nombreux d'ailleurs, et pour le reste, il a réparti l'ensemble du Lyonnais entre les chanoines, chaque chanoine ayant la responsabilité matérielle et spirituelle, en somme, d'une fraction de la principauté. Et système original, c'était une répartition entre les chanoines existants. Si un chanoine décédait, on refaisait la répartition. C'est comme ça que la chose a fonctionné en Lyonnais. Et par conséquent, ça veut dire que les chanoines partagent vraiment complètement les prérogatives de l'archevêque. Alors vous comprenez que tout naturellement, les chanoines se considèrent désormais comme des comtes de Lyon. Tant plus que, vu les origines nobiliaires qui tendaient à devenir quasiment uniformes dans le chapitre, ils pouvaient aussi pousser dans ce sens-là. D'où, tout naturellement, les deux sceaux caractéristiques du chapitre que vous pouvez voir aux vitraux les plus hauts de l'abside de la primatiale. Il y a des tas de choses à voir dans cette primatiale qui n'a rien au premier abord et qui en a des tas de choses quand on veut se donner la peine de regarder les détails, c'est-à-dire le griffon d'or du pouvoir spirituel et le lion d'argent du pouvoir temporel. Les deux sont représentés, ça montre bien exactement comment se situe le chapitre. Sur ces bases, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme auraient dit certains, même si vous me permettez l'anachronisme. En effet, l'archevêque et le chapitre doivent coopérer à l'administration de l'ensemble du Lyonnais. Et les chanoines jurent fidélité chaque fois à tout nouvel archevêque. L'archevêque, à son tour, s'engage à respecter les privilèges du chapitre. Donc c'est une direction commune de l'église de Lyon, tout va très bien. Oui, mais voilà, c'est que le temps passant, le chapitre exalte ses droits. Et puis il les exalte surtout quand le pape Innocent IV est à Lyon et paraît avoir le risque de succomber à la fâcheuse tentation de nommer les chanoines. Alors là, évidemment, le chapitre réagit. Et il réagit très fort, puisqu'il fait savoir publiquement que ceux qui oseraient se présenter au chapitre sur nomination seraient jetés au Rhône. C'est le doyen du chapitre qui fait cette déclaration publique en 1245. D'appeler un chat à l'époque, vous le voyez. Bref, le chapitre entend garder ses droits. Et puis, naturellement, en même temps, il affiche de plus en plus son ambition sur la juridiction spirituelle, sur la juridiction séculière de la ville et sur le droit d'enseigner. Alors là, ça devenait très irritant pour l'archevêque. Sur le droit d'enseigner, parce qu'il y avait déjà, avant l'arrivée d'Innocent IV, hein, il y avait déjà depuis longtemps, à la manicanterie, les maîtres en théologie, les chevaliers de l'Église, comme on les appelait pour le droit, il y avait déjà quelque chose qui fonctionnait, qui était du niveau de l'enseignement supérieur, sans qu'il y eût d'université organisée. Mais vous pensez bien qu'à partir du moment où Innocent IV a fondé à Lyon l'université pontificale, ça a donné des idées supplémentaires, naturellement, au chapitre. Et ce chapitre est d'autant plus puissant que derrière les chanoines eux-mêmes dont j'ai parlé, il y a du monde. Ils ne sont pas tout seuls, les chanoines. Derrière eux, ces chanoines dont le chiffre est infini par se stabiliser à 32, eh bien, arrivent ce qu'on appelle les incorporés, qui sont custodes, chevaliers de l'Église, perpétuels, comme on dit, c'est-à-dire des prêtres affectés au service du vin, ils sont à peu près une trentaine. Bon. Vous avez également les desserviteurs, comme on dit, c'est-à-dire les prêtres, diacres, sous-diacres et clercs, qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans l'ensemble des possessions du chapitre. Ils ne sont pas nécessairement physiquement à la primatiale, mais ils sont très directement liés au chapitre. Et ceux-là sont généralement une bonne centaine. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a encore les clergeons, ainsi qu'on appelait à l'époque les enfants de chœur et les jeunes chantres. Il y a les officiers du chapitre, les serviteurs, etc. Bref, le chapitre est véritablement une force, et une force qui se dresse face à l'archevêque qui, lui, dans le même temps, naturellement, a mis en place ses propres institutions, chancellerie, l'official depuis 1221 à Lyon, un hôtel particulier, vous savez, au sens où on aurait dit une maison à l'époque moderne, des officiers, ne serait-ce que pour la garde des châteaux. Et ces deux éléments-là s'affrontent au XIIIe siècle, c'est évident. Et aucun arbitrage ne réussit sérieusement à les mettre d'accord dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Donc, véritablement, là, il y a conflit. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'est la situation. Deux puissances qui sont en conflit. Comment ça va se dénouer? Ben, ça va se dénouer tout autrement qu'on aurait pu l'imaginer. Ça va se dénouer, c'est le troisième volet de ce que je voulais vous présenter, par les menaces intérieures et extérieures qui vont peser sur Lyon. À l'intérieur de la ville, de la cité, l'archevêque est menacé. Il est menacé dans son autorité par le chapitre, dont j'ai parlé jusqu'à présent. Il l'est aussi de plus en plus par les Lyonnais. Parce que les bourgeois de Lyon, que vous prenez au sens médiéval, les habitants du bourg, les habitants de la ville, les bourgeois de Lyon trouvaient quand même un peu fort que les chefs de principauté de la région, Sieur de Beaujeu, Comte de Savoie, etc., aient concédé des franchises à leur ville, et les Lyonnais, eux, ne voyaient pas venir grand-chose. Il y a un conflit qui rampe pendant le XIIIe siècle et qui, vous allez le voir, va finir par éclater d'une façon extrêmement violente. Le chapitre, de son côté, est menacé, lui aussi. Il est menacé par la papauté, ne serait-ce que par l'essai de nomination des archevêques par le pape, qui, sous couleur d'intervenir dans des élections où il y aurait peut-être eu ici ou là quelques anomalies juridiques, cherchait toutes les occasions, naturellement, pour intervenir. Et évidemment, comme la nomination de l'archevêque était la prérogative numéro un du chapitre, vous pensez bien qu'il était pour le moins inquiet. Ajoutez-y des gens en prime les prodromes d'une fiscalité pontificale qui risquait naturellement de gêner également le chapitre, et par conséquent, vous comprenez qu'il se soit senti visé par la papauté. Il était aussi le chapitre visé par les Lyonnais eux-mêmes, qui n'admettent pas du tout que le chapitre veuille imposer à Lyon une juridiction supplémentaire. Et la tension monte très violemment, manifestement, avec le chapitre. Les questions de juridiction étaient déjà assez compliquées à Lyon, sans que le chapitre vienne encore en rajouter. Finalement, les Lyonnais ont profité d'une vacance du trône archiépiscopal pour déclencher ce qui a été la crise majeure de 1268. Là, il y a des événements que je me contente de rappeler, qui sont bien connus. Les Lyonnais attaquent le chapitre, qui, sentant que les fortifications de Saint-Jean étaient un peu faibles, se retranchent dans la puissante abbaye fortifiée de Saint-Just. Et naturellement, le chapitre riposte par l'appel à l'aide militaire de toute la parenté des chanoines, ce qui commence à faire du monde. Alors, bien entendu, les Lyonnais, un tantinet inquiets, réclament tout de suite la trêve. Ils n'avaient pas du tout envie d'affronter des hommes d'armes entraînés. C'était bien joli de se déguiser, comme ils adoraient le faire, pour imiter l'aristocratie. Mais autre chose était de rester derrière un comptoir ou de s'entraîner à longueur de semaine. Bien, donc, ils ont demandé rapidement une trêve, et les choses s'en sont restées là momentanément. Et puis, l'année suivante, en 1269, ils ont décidé de se venger. Et ils se sont vengés de la façon la plus atroce à Écully, où ils ont réalisé un véritable radeau avant la lettre, en bouclant la population dedans et en mettant le feu. Ils se sont vengés aussi en pillant Genet, Civrieux, Couzon et autres lieux. Après quoi, comme ils s'étaient bien rendu compte qu'ils étaient quand même allés un peu loin et qu'il allait leur arriver des choses très désagréables avant peu, ils se sont dépêchés de se mettre sous la protection de Philippe le Hardi. Vous savez en effet que Philippe le Hardi était nécessairement obligé de passer par Lyon en ramenant les restes de Saint-Louis et d'autres membres de la famille qui avaient été frappés par la maladie au moment de la 8e croisade, au moment du détour en Tunisie. Et par conséquent, c'était le moment d'intervenir. Et avec cette protection, ben, les Lyonnais ont essayé de créer une sorte de commune sous la forme du Conseil des Douze. À vrai dire, la situation n'était pas tranchée. Là-dessus, se produit le moment de présence du pape Grégoire X, alors tout le monde se précipite vers le pape, naturellement, qui finalement rend un jugement favorable à l'Église en 1274. Alors les Lyonnais, pas contents du tout, cette fois-ci tentent le Parlement de Paris, en se disant qu'après tout, de ce côté-là, ils vont peut-être avoir une autorité, mais le Parlement de Paris ne leur donne pas raison du tout. Ils sont très déçus. Alors, eh bien, ils se tournent vers l'autre voisin. Pour les Lyonnais, il y a deux voisins possibles, soit le roi de France, puisque pour l'or, il vient de faire l'acquisition du comté de Mâcon, il n'est pas loin, soit le comte de Savoie, vicaire d'Empire, qui est encore plus proche, puisqu'il arrive aux limites du mandement de Béchevelin, en quoi vous aurez reconnu tout bonnement les arrondissements de Lyon de rive gauche du Rhône. Alors il se tourne vers le comte de Lyon, qui a sa grande politique de franchise, et le comte Amédée V les prend sous sa protection, effectivement, de 1286 à 1289, et Lyon a donné l'impression d'être en passe de devenir savoyarde à ce moment-là, alors que pendant ce temps, l'archevêque et le chapitre poursuivaient leur conflit entre eux d'arbitrage en arbitrage. On en est là sur le plan intérieur, ça ne paraît pas se débloquer. C'est à l'extérieur que les choses vont jouer. Le roi de France, Philippe IV le Bel, le temps a passé dans l'intervalle, finit par conclure un accord avec le comte de Savoie-Amédée V, qui avait des tas de litiges territoriaux. Et peu après 1290, finalement, Amédée V accepte de laisser à Lyon le champ libre au roi, ce qui va évidemment contre les droits impériaux, mais vu la crise de l'Empire, c'était possible. Et il accepte d'abandonner, pour le moment, ses visées sur Lyon, moyennant des compensations. Alors évidemment, le roi de France, voyant le terrain libre, prend des initiatives, que je rappelle très rapidement. Le roi de France met un officier pour le représenter, le gardeur, en 1292, soit un simple représentant, sans plus. Pas d'écho du côté de l'empereur. Il laisse passer quelques années, hop, en 1307, il fait plus fort, il sort ces documents que les archivistes lyonnais ont surnommés irrespectueusement les Philippines, c'est-à-dire deux documents dans lesquels le roi de France déclare que de tout temps, ce qui est absolument faux, Lyon a toujours fait partie de la mouvance française. C'est une pure nouveauté en 1307. Mais comme pour le moment, la situation dans l'Empire est telle que l'empereur n'est pas en mesure de protester, il continue. Jusque-là, les Lyonnais dans l'affaire étaient assez enthousiasmés. Quand ils ont vu commencer à œuvrer des officiels royaux qui représentaient le roi, ils ont commencé à s'effrayer de cet autoritarisme des officiers français. Ils ont commencé à trouver bien pesante la justice d'État français, qui était sûrement plus pesante que la justice d'Église. Ils ont commencé à s'effarer de la fiscalité française. Faut-il vous rappeler que Philippe IV le Bel a été le créateur de l'impôt sur le revenu, hein, ce que les Français n'ont admis seulement et encore qu'au XXe siècle. Hein, pensez l'effet que ça leur a fait au début du XIVe. Bon, quelque chose d'inconcevable, enfin de totalement scandaleux. D'ailleurs, si Philippe IV le Bel est resté honni dans la mémoire des Français, c'est pas les histoires des Templiers. Oserais-je dire que les gens de l'époque, sauf les intéressés, ça leur a fait ni chaud ni froid. C'est l'histoire de la fiscalité. Alors ça, les Français ne l'ont jamais digéré. Bon. Philippe IV le Bel était en train de faire des tas d'initiatives fâcheuses. Alors là, les Lyonnais commencent à s'inquiéter sérieusement, et les voilà qui se rapprochent du chapitre. Et du coup, ben, ma foi, devant la menace, l'archevêque changeant dans l'intervalle, c'est Pierre de Savoie, l'archevêque, en 1308, carrément, prend la tête du mouvement et refuse purement et simplement les ordres royaux et se retranche dans sa cité. C'est la révolte pure et simple contre l'autorité royale. Vous pensez bien que quelqu'un comme Philippe IV le Bel va pas laisser passer les choses longtemps. Il riposte Philippe IV le Bel, le roi de France, par l'envoi de son fils Louis, le futur Louis X, avec une armée qui entre par surprise à Lyon. Les Lyonnais l'attendaient pas si tôt, parce que l'armée royale, elle est descendue par radeau sur la Saône, et alors qu'on les attendait descendant par petites étapes, par voie de terre. Les Lyonnais n'avaient pas tendu les chaînes. Résultat, l'armée royale s'est trouvée en ville sans difficulté. Et en juin 1310, et naturellement, les bons Lyonnais sont repassés rapidement derrière leur comptoir, la défense s'est circonscrite naturellement sur le château de Pierre VI, la résidence archiépiscopale bien fortifiée. Au bout d'un mois, l'archevêque Kelserane, ne voyant rien venir en matière de renfort, il a toujours espéré que son cousin Amédée V ferait quelque chose, mais Amédée V s'en tenait à l'accord avec le roi de France. Hein. Et l'archevêque a été contraint de rendre Pierre VI, et finalement le Lyonnais a été occupé par l'armée royale. L'archevêque a été mis en résidence forcée, histoire pour le roi de l'amener à une plus saine compréhension de la situation. Et finalement, l'archevêque et le chapitre ont été contraints de reconnaître la souveraineté royale à l'issue du concile de Vienne, où le roi de France s'était déplacé, bien en Dauphiné, hein, en 1312. Et Lyon est ainsi passé sous l'autorité du bailli de Mâcon, qui a bientôt aussi pris le titre de sénéchal de Lyon, comme quoi on était à la limite de la France du Nord et la France du Sud. Tout ça ne réglait pas tout, la situation à Lyon, pour autant. Le règlement d'ensemble est dû à quelqu'un qui était un peu un oublié de l'histoire de France médiévale, Philippe V, Philippe V le Long, le seul des fils de Philippe IV le Bel qui a eu l'envergure de son père. Philippe V, en 1320, a, lui, procédé à un règlement d'ensemble onfre. Terme de ce règlement, Lyon obtient, c'était l'objet de tous ses désirs depuis un siècle, Lyon obtient un consulat, c'est-à-dire une direction collégiale municipale à la mode des villes du Midi, dans lequel il y avait donc une direction, non pas par un maire unique, ça c'est le modèle France du Nord, mais par un collège de consuls. Et par conséquent, Lyon avait son administration municipale propre, enfin. Deuxième chose, l'archevêque Pierre de Savoie, outre naturellement ses droits sur Pierre VI et sur ce qui était à l'est de l'axe Saône-Rhône, le franc lyonnais, le bandement de Béchevelin, Pierre de Savoie retrouve une juridiction à Lyon, oui, mais une juridiction seulement de première instance, ce qui permet toujours l'appel au roi. Et cette juridiction, d'ailleurs, est inféodée au roi de France, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Troisièmement, le chapitre renonce à toute juridiction, hormis dans le cloître, sur les chanoines, leurs clercs, leurs familiers, dans le territoire du cloître. Enfin, c'est peu de choses. En compensation, simplement, il reçoit le tiers des amendes perçues à Lyon pour compenser tout ce qu'il allait perdre, justement, des droits qu'il encaissait jusque-là. Et le roi, bien entendu, évidemment, autorise le bailli de Mâcon à placer, selon nécessité, dit le texte, des troupes à Lyon. Et il se donne le droit de mettre en place un juge d'appel. Oh, il n'est pas à Lyon, non, mais il est à Lille-Barbe. Ce qui n'a pas fait plaisir à l'abbé de Lille-Barbe, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. L'abbé de Lille-Barbe qui joue entre France et Empire, là, ça ne lui a pas plu du tout. Hein. Et on en est resté à cette situation-là. Donc, et en définitive, c'est le roi de France qui triomphe, et déjà, et encore plus sous les Valois, à condition évidemment que la papauté ne s'y oppose pas, et évidemment, vous comprenez pourquoi au XIVe siècle, le roi de France a exercé un contrôle discret de la papauté d'Avignon. C'était pas Avignon, c'était juste de l'autre côté du Rhône. Regardez la forteresse de Villeneuve-les-Avignons. Hein. Et aussi... pousser un mouvement qui était très vieux dans l'histoire de France, mais qui atteint sa toute puissance à ce moment-là, le gallicanisme. Et ma foi, pris entre les deux, hein, entre le roi de France et la papauté, l'église de Lyon garde naturellement son rôle spirituel. Pour le reste, elle a du mal à garder quelque chose. L'archevêque a une cour séculière, et avec un juge ordinaire, chancelier, prévôt, sergent, c'est une affaire entendue, oui. Mais les officiers royaux ne vont avoir de cesse de chercher à s'implanter à la ville de Lyon, et ils vont finir par aller s'installer à Roanne, comme on disait, non pas dans la ville, mais dans l'hôtel de Roanne, c'est-à-dire cet hôtel construit par une famille originaire de Roanne, mais qui avait bâti sa maison à l'emplacement où est le palais de justice traditionnel de Lyon. Et voilà donc les officiers royaux qui s'installent là. Et là, l'archevêque n'a pas plus grand-chose. Tout ce qu'il a fait, c'est essayer d'étoffer la cour de l'officialité en matière de riposte, pour pas de riposte qui était quand même, vous en conviendrez, très modeste. Le chapitre, lui, en revanche, défend son droit d'élection, comme toujours, face à la papauté et face aux pressions royales. Ce n'est pas facile du tout. Et voilà pourquoi les deux têtes de l'église de Lyon sont arrivées, dans ces conditions difficiles, à finir par se réconcilier graduellement. Il est bien évident que le rôle temporel de l'église de Lyon dégringole rapidement, c'est sûr, depuis 1310, avec une liquidation absolument complète qui va se faire en 1531. Et il reste un rôle spirituel de l'église de Lyon et un rôle intellectuel aussi qui est très fort. Je pense notamment à l'archevêque Charles de Bourbon dans les années 1446-1488, celui qui a construit, je vous en dirai un mot, dans un instant, l'un des éléments du palais archiépiscopal de Lyon que l'on voit encore, la tourelle que l'on voit encore sur la place Adolphe Max, c'est un des éléments qui subsiste de ce moment-là. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'est en gros l'évolution. Il me reste très simplement à, en additif à ce que je viens de vous présenter, en attendant les questions perfides que vous voudrez bien m'adresser, à donner quelques précisions d'histoire purement locale qui ont leur nécessité. J'ai évoqué les deux têtes de l'Église. Où sont-elles géographiquement, matériellement? L'archevêque. L'archevêque, il a un palais archiépiscopal. On a pu reconstituer à peu près l'évolution. Au départ, il y a ce que l'on appelle dans les textes la domus ecclésiae, une maison de l'évêque qui est située près de la grande église, comme on dit dans les textes, entendez par là, évidemment, la primatiale, une maison dont les origines semblent remonter au 5e siècle, dans sa toute première version, naturellement. On sait en tous les cas, d'une façon sûre, je ne sais plus c'est dans Grégoire de Tours, je ne sais plus dans quelle voie autorisée de l'époque, vers 552-573, il y a déjà de grandes réparations qui nous donnent des indications déjà relativement précises sur ce qui existait à ce moment-là. Et cette Domus Ecclesiae, c'est cette maison de l'église de Lyon, prend de l'importance en 800, vers 800, là, l'Eidrade va se lancer dans une extension de cette maison pour que ça devienne un palais susceptible d'accueillir éventuellement l'empereur ou ses représentants. Ça, c'est la première phase. La phase au médiéval. On reste ainsi pendant le Moyen Âge. Deuxième phase, il y a ce que les textes appellent la Domus Episcopalis cum Turibus. Il n'y a pas besoin d'être latiniste distingué pour voir qu'il s'agit d'une maison épiscopale qui s'est un tout petit peu fortifiée. Effectivement, vers 1065-1076, se produit l'érection d'une maison épiscopale fortifiée par l'archevêque Humbert Ier. Les successeurs vont continuer, là, à partir de 1085, vont construire une chapelle à peinture, nous disent les textes, vous savez, les constructions romanes qui étaient entièrement décorées de peinture, cisterciens exceptés, et ils vont surélever l'édifice, ils vont faire toute une série d'adjonctions. Et par conséquent, vous avez une maison épiscopale, sommairement fortifiée, qui se développe. Seulement, vers 1200, ce palais épiscopal se trouve quasiment abandonné au profit du château de Pierre-Cise qu'est en train d'ériger l'archevêque Renaud de Forêt. Château de Pierre-Cise que vous localisez, je pense, facilement, puisqu'il se trouvait sur ce rocher domine l'homme de la roche et sa passerelle, hein, et qui, ironie de l'histoire, abrite maintenant un relais de château d'eau. Ce rocher. Vous pouvez le vérifier. Le troisième stade de l'évolution, c'est le palais de Charles de Bourbon, auquel je viens de faire allusion. C'est essentiellement là, aux alentours de 1466-1467, que, tout en gardant les substructions antérieures, le prélat élève ce qui va s'appeler désormais le palais Saint-Jean, en bordure de la Saône, et il vient y loger. Et on sait que du côté opposé à la Saône, le palais donne sur la rue des Estrées. La rue des Estrées existe toujours, mais elle est coupée maintenant. Il faut la prolonger mentalement pour voir où ça se situe. Et naturellement, c'est par-dessus cette rue qu'il existe deux passages qui permettent de relier le palais à la chapelle et au bâtiment de juridiction. Ça existe encore, mais enkysté dans les bâtiments ultérieurs. Et puis, simplement, je vous rappelle, c'est pas médiéval, mais enfin, je peux quand même vous le rappeler, les mutations post-médiévales. Vous savez qu'il y a eu des modifications par la suite. Alphonse de Richelieu et Camille de Neuville, au XVIIe siècle, ont déjà esquissé des transformations. Puis c'est surtout au XVIIIe siècle, le cardinal de Tencin, qui, au milieu du XVIIIe, a fait ériger le palais de Soufflot, que vous voyez là encore. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, dans la seconde moitié du siècle, que l'ancien cloître voisin a été détruit pour faire place à des immeubles. C'est pas la Révolution, là, qui en est responsable. Et le dernier acte a été en 1906, lorsque l'archevêque a été contraint par l'État de quitter le palais pour aller à Fourvière, comme on sait. La suite, vous la connaissez. Pour ce qui concerne maintenant le chapitre, le cloître fortifié de Saint-Jean, ça c'est moins connu, ça mérite d'être précisé. Les remparts sans doute ne sont pas aussi imposants que cette abbaye fortifiée de Saint-Just avec sa masse de tours d'enceinte qui était vraiment une puissance. Les remparts, ils sont faciles à repérer. Puisqu'il suivait du côté du nord ce qu'on appelait la rue Portefroc à l'époque, c'est-à-dire l'actuelle rue de la Bombarde du côté nord, n'est-ce pas, depuis la hauteur de la rue des Estrées. À l'ouest, c'était ce qu'on appelait à l'époque la rue de la Bombarde, qui est maintenant la rue Tramassac. Et au sud, cela englobait à peu près la place actuelle, n'est-ce pas, pour revenir en somme vers la Saône. voilà sensiblement le périmètre, et on accédait naturellement à ce cloître fortifié par trois portes. La porte principale, c'était la porte Franck au nord, dans l'axe de la rue Saint-Jean, c'est facile à la repérer. Il y en avait une deuxième, la porte de Savoie, qui était au nord-est, c'est-à-dire actuellement angle de la rue de la Bombarde et de la rue des Estrées. Et vous aviez la porte de Savoie ainsi appelée parce que le premier pied-à-terre lyonnais qui a eu les Savoies à Lyon était justement juste derrière cette porte. Après, ils ont, au XIVe siècle, ils ont racheté, comme on sait, aux hospitaliers qui venaient de la Ouer des Templiers, le temple de Lyon, dont ils ont fait l'hôtel de Savoie, et qui, par la suite, Amédée VIII devait céder aux Célestins, ce qui est l'origine du quartier du même nom. Donc, porte Franck, porte de Savoie, au nord, et au sud, la porte du Cotter, C-O-T-E-R-T, donc au sud, jouxtant une puissante tour quadrangulaire, et qui était à peu près en symétrie de la porte de Savoie. Voilà, si vous voulez, comment étaient conçus les remparts. À l'intérieur, qu'est-ce que vous aviez comme bâtiment ? Au nord de la primatiale, eh bien, il y avait des maisons de chanoines, dont la maison du Chamarier, qui existe toujours, dans une version un peu plus tardive. Vous aviez naturellement Sainte-Croix, l'église à fonction paroissiale, et Saint-Étienne, relié par un passage à la porte nord de la primatiale Saint-Étienne, c'est-à-dire l'église qui provenait de la transformation de l'ancien baptistère. Du côté du sud, par rapport à l'église actuelle, primatiale, bien, il y avait la manicanterie, n'est-ce pas, et la prison et l'auditoire du chapitre qui encadraient le cloître. Le cloître dont les dimensions correspondaient sensiblement à la nef actuelle de la primatiale. De cela, il ne reste plus grand-chose, comme vous le savez, si ce n'est la petite chapelle qui a été aménagée dans ce qui subsiste du cloître, c'est-à-dire le départ du cloître, là, que l'on trouve à droite quand on rentre dans la primatiale Saint-Jean, c'est la deuxième porte à droite, une porte de grande taille. Au sud, toujours, il y avait l'officialité qui se trouvait dans un bâtiment juste au sud de la primatiale devant le transept. Et puis, naturellement, le parlais archiépiscopal je viens d'évoquer. Enfin, vous y ajoutez l'église Saint-Romain qui terminait au sud cette place appelée Cour de l'Archevêché, qui a pour une part été le point de départ de la place qui existe actuellement. Pour le reste, dans le cloître, ce sont des maisons de clercs, de clergents, de serviteurs, de gardes, etc. Voilà à peu près ce qui s'y trouve. Et il y a beaucoup de maisons, c'est très, très entassé. Et la seule place véritablement disponible, c'est le parvis. Tout le reste est absolument truffé de maisons, et en particulier le côté ouest où il y a maintenant la place devant la cathédrale était quasiment entièrement loti par des maisons de chanoines ou dépendants de chanoines. Donc il faut bien voir cette espèce d'entassement qui correspond d'ailleurs à des habitudes traditionnelles au monde médiéval où on ne voulait pas payer trop cher quand même le développement des fortifications. Donc on préférait s'entasser à l'intérieur. Voilà par conséquent, géographiquement, comment vous pouvez situer les deux protagonistes tout proches, vous le voyez, puisqu'ils étaient tous les deux au sud de la primatiale, par ailleurs, ont donc, pendant un temps, dirigé la principauté ecclésiastique de Lyon. Je rappelle simplement au passage que, naturellement, quand on parle de principauté, au Moyen-Âge, il ne faut pas le voir à l'aune des quelques principautés d'opérettes qui subsistent actuellement du style de Monaco ou de Saint-Marin. Non, ce n'est pas ça du tout. À l'époque, quand on dit principauté, ça peut correspondre, s'il sait... si le prince, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce tous les pouvoirs de souveraineté sans avoir le titre de roi, qui est un duc, comte ou marquis selon les pays, le prince donc a autorité sur ce qui est l'équivalent de, souvent de 4, 6 ou un peu plus de nos départements actuels. Une grosse région, quoi, si vous voulez. Et si, pour un prince laïque, en moyenne, c'est ça. Il y en a des qui sont plus grandes, mais enfin bon, ne raisonnerons pas sur les exceptions. Et quand il s'agit des principautés ecclésiastiques, généralement, elles sont plus petites. Elles correspondent au plus à sensiblement un demi-département actuel ou quelque chose comme ça, hein, ou un département à la rigueur. Mais ça ne va pas plus loin la plupart du temps. Et là, je précise, il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas l'habitude de Lyon, que je vous rappelle que le Lyonnais, strictement parlant, c'est ce qui se trouve sensiblement dans le quadrilatère Ans, Tarare, Saint-Chamond, Condrieu. Voilà le Lyonnais historique, plus au nord, c'est le Beaujolais. La seigneurie de Beaujeu, et plus à l'ouest, c'est le comté de Forêt. Et plus à l'est, c'est le comté de Savoie. Voilà, si vous voulez, comment on peut essayer de cadrer ces relations entre l'archevêque et le chapitre. Et il est certain que par la suite, l'archevêque et le chapitre se sont concentrés davantage sur le rôle spirituel. Le pouvoir temporel a disparu et n'existe plus, comme je vous le disais, depuis 1531. Ce n'est pas une affaire de la Révolution, et c'est beaucoup plus ancien que cela, et c'est pour ça que j'ai concentré mon propos sur cette période-là. Voilà donc, si vous voulez, ce qui permet, je l'espère, de répondre à la proposition qui m'avait été faite de vous traiter ces rapports entre archevêque de Lyon et chapitre de Saint-Jean. Maintenant, il est bien évident que j'attends avec intérêt les précisions que vous pourrez me demander ou les compléments dont vous avez besoin, si je les connais. Je ne prétends pas tout savoir. J'espère ne pas vous avoir anesthésié à cette heure-là.